Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'Assemblée générale annuelle des Nations Unies se déroule actuellement, je le précise, car il est possible que cette année l'événement ait échappé au moins à ceux qui n'écoutent pas RFI. C'est que cette année, cet événement ne met pas le quartier de New York où se trouve le siège de l'organisation en état de siège comme d'habitude. Non, les chefs d'État s'expriment par vidéo, en général enregistrée. C'est comme ça que fonctionne le plus souvent la diplomatie depuis la pandémie de Covid-19. Quand les sommets ne sont pas tout simplement annulés ou reportés, comme le Conseil européen prévu d'abord aujourd'hui, quel changement pour la diplomatie à l'heure de la visioconférence? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans notre studio. Il y a Jean-Pierre Molny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et aussi une voix familière aux auditeurs de RFI, Nicolas Falaise. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service international de RFI. Et par téléphone, nous sommes avec Pierre Vimont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure et chercheur associé à la Fondation Carnegie Europe. On va commencer avec vous, Pierre Vimont. Comment ça se passe habituellement au siège des Nations Unies dans le quartier de Turtle Bay à New York à cette époque de l'année?
Comme vous l'avez très bien dit, d'abord, c'est un quartier généralement totalement embouteillé pendant plus d'une semaine. Par la présence de toutes les délégations venues du monde entier, menées par leur chef de l'État ou leur premier ministre, qui se rencontrent non seulement au siège des Nations Unies, mais dans tous les hôtels de la ville pendant toute cette semaine, font des discours, bien sûr, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, mais surtout ont des réunions, des contacts, des entretiens formels ou informels qui sont particulièrement utiles pour essayer de faire avancer les différents dossiers d'actualité sur la scène internationale. Donc c'est vraiment la grande semaine de l'activité diplomatique pour toute l'année. Et le fait que cette année, cela ne peut pas se faire, bien évidemment, est un grand handicap.
Jean-Pierre Molny, cette année, donc, les chefs d'État sont absents. Il y a un représentant diplomatique par nation autorisé dans la salle à condition d'être masqué sur 2500 places habituellement. Bref, le siège des Nations Unies, on le comprend, c'est une sorte de vaisseau fantôme en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de diplomatie qui se fait cette semaine?
La diplomatie, si elle continue à se faire... mais j'ai envie de dire pas spécifiquement à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est certain que les chefs d'État, les ministères des Affaires étrangères continuent à correspondre entre eux et essayer de faire avancer les dossiers diplomatiques. Mais c'est sûr que ce qui manque à un moment, c'est la possibilité d'avoir le contact direct, et j'ai même envie de dire le contact visuel. Et ça, je suppose, et je pense que Pierre Vimont pourra le confirmer, que c'est sans doute un manque, notamment quand les discussions justement peut-être sont difficiles ou tendues, où là le contact direct peut être nécessaire pour bien comprendre, en fait, la position de l'autre.
Nicolas Falaise, vous avez déjà couvert pour RFI une Assemblée générale des Nations Unies. Ce qui se passe pas, là, ce sont donc tous ces échanges informels dans les couloirs, les rencontres dans les hôtels new-yorkais, qui permettent d'être assez discrets, en fait. Hein, tout cet aspect-là, est-ce que c'est le plus important? Est-ce que c'est l'essentiel d'une Assemblée générale des Nations Unies?
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'image de la ruche est peut-être la plus précise hein, pour décrire le bâtiment de l'ONU à cette période de l'année. Et c'est vrai que c'est, il faut le dire sincèrement, hein, c'est un peu un cauchemar pour un journaliste de devoir suivre des discours qui se succèdent alors qu'on sait que les chefs d'État ont des apartés et des contacts entre différents rendez-vous, que se tiennent des réunions thématique. Il y en avait une en visioconférence, bien sûr, hier sur le Liban, mais il y en a des dizaines par jour en temps normal à l'Assemblée générale de l'ONU.
Et vous suivez ça sur le site des Nations Unies
Alors,
comment ça se passe?
2020, effectivement. On peut le faire les autres années, alors que les représentants, dirigeants, chefs d'État, de gouvernement, diplomates sont réunis à New York depuis plusieurs années. On peut suivre ça à distance. Aujourd'hui, on est réduit ici à suivre ça à distance, sauf notre correspondante à New York, Karine Hotten, qui est présente dans ce bâtiment de l'ONU, très différent de ce à quoi il ressemble d'habitude. Mais effectivement, on imagine mal aujourd'hui autant d'interactions à New York que dans une assemblée générale habituelle, c'est évident.
Pierre Vimont, je vous pose la question aux diplomates que vous êtes. Tout l'aspect informel, ces rencontres dans les couloirs, ce contact visuel, comme disait Jean-Pierre Molny, est-ce que vous diriez que c'est le plus important, en fait, dans l'Assemblée générale des Nations Unies?
Nations Unies, c'est important, et surtout pendant cette semaine-là, c'est très important. Ce que je crois qu'il faut peut-être remarquer dans cette crise du virus, c'est qu'elle a permis de mieux distinguer entre deux étapes de la négociation diplomatique qui sont en fait très différentes l'une de l'autre. Il y en a une, soyons honnêtes, là aussi, qui est plutôt formelle, qui consiste pour chacune des deux parties ou de toutes les parties qui interviennent à répéter des positions qui sont bien connues. Et de ce point de vue-là, très honnêtement, continuer ce genre de dialogue en visioconférence n'est pas forcément un manque à l'heure actuelle. En revanche, à partir d'un moment, quand on entre dans le vif de la discussion et qu'il s'agit là de pouvoir aller au fond des choses et d'espérer avancer vers un accord, là, il faut incontestablement le contact visuel, une présence physique, et pour mieux se connaître. Et regardez d'ailleurs comment ça s'est passé alors dans un autre cadre que vous mentionniez d'ailleurs au début de votre intervention et de cette émission, qui sont les conseils européens. Pendant longtemps, au début de la crise du virus, les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres ont négocié le fameux plan de relance par visioconférence. Ça n'avançait pas beaucoup, mais chacun pouvait rappeler ses positions, ses points durs, les possibles compromis ici ou là, mais la négociation s'enlisait un peu. Et à un moment donné, ils sont passés à la deuxième étape, ceux qui sont d'ailleurs tous venus physiquement à Bruxelles, et là, après un long marathon, ils sont arrivés à un accord. Donc on voit bien la distinction entre ces deux phases.
C'est là que ça s'est débloqué. Je repose la question aux diplomates que vous êtes, Pierre Vimont. Au Quai d'Orsay, là, actuellement, les diplomates, est-ce qu'ils font comme les journalistes de RFI? Est-ce qu'ils suivent ça sur le site internet des Nations Unies? Ou il y a quand même d'autres moyens?
Ils ont leur représentation permanente, leur ambassade à New York, l'ambassadeur et tous ses collaborateurs sont là, et c'est eux qui suivent aussi depuis la salle de l'Assemblée générale ou dans les salles des délégations à la fois les discours un peu formels, mais aussi les réunions qui étaient signalées tout à l'heure par votre collègue sur tous les sujets possibles, dans toutes les salles possible. Là, ils sont soit présents, soit sont en contact via visioconférence avec les discussions en cours.
Jean-Pierre Molny, la nature des interventions, vous disiez tout à l'heure que ça changeait un petit peu la nature de la diplomatie. Est-ce qu'elles sont plus agressives, un peu comme cela peut être le cas quand on est un peu péremptoire à distance, derrière son clavier d'ordinateur sur un réseau social? Est-ce qu'on pense... Je pense évidemment à l'échange assez virulent entre Donald Trump et Xi Jinping. Est-ce que ça se serait passé différemment s'ils avaient été l'un en face de l'autre, s'ils s'étaient croisés?
Honnêtement, je n'en suis pas certain, parce que de toute façon, dans la diplomatie, quand on n'est pas directement en contact l'un avec l'autre, et même quand on est en contact directement l'un avec l'autre, il peut y avoir quand même des déclaratoires dans une phase préliminaire. Et puis si vous prenez quelqu'un comme Donald Trump, je pense que Covid ou pas Covid, le déclaratoire, il va être extrêmement important. Peut-être, je dis bien peut-être, est-ce que ça retarde justement le moment où la discussion devient, je dirais, plus sérieuse et où l'échange est plus sérieux. C'est possible. Moi, j'ai peut-être quand même une interrogation, parce que Pierre Vimon parlait de la phase préliminaire et puis la seconde phase. Est-ce que ça n'a pas aussi pour conséquence peut-être d'approfondir justement le travail durant la phase préliminaire, sachant que la seconde phase, je dirais pas par principe, mais risque d'être quand même plus courte.
Mmh. Bon. Pierre Vimon, justement, cette diplomatie d'un nouveau genre, est-ce que finalement elle se prépare comme elle s'est toujours préparée, hein? Est-ce que ça change beaucoup le travail en amont entre conseillers diplomatiques de différents pays, entre Sherpas, comme le veut l'expression consacrée?
Oui, je crois que c'est exact. La remarque qui vient d'être faite est très juste. Il y a souvent, on l'a constaté ces derniers mois, un travail préparatoire plus fourni par les conseillers des chefs d'État et de gouvernement, mais aussi, et c'est un point que je trouve aussi plutôt positif, par les ambassades localement, parce que le fait qu'aujourd'hui, les diplomates qui sont en poste dans leur capitale ne peuvent plus se déplacer aussi facilement qu'auparavant, cela donne un rôle nouveau à nos postes diplomatiques qui, eux, sont sur place, qui peuvent rapporter les derniers événements, les dernières rumeurs dans la ville, les dernières évolutions que l'on croit noter et que l'on peut noter ici ou là. Et donc, ça renforce ce travail de préparation pour la dernière étape qui, en effet, doit être plus concentrée, mieux focalisée, plus directe parfois et plus resserrée.
Nicolas Falaise, est-ce que les circonstances actuelles redonnent effectivement aux représentations permanentes sur place, aux ambassades, un rôle qu'elles avaient peut-être un petit peu perdu avec l'information en temps réel qui ne leur permettait pas d'avoir ce rôle d'information pour les exécutifs?
Alors, je pense que Pierre Vimon ne me contredira pas. C'est sans doute vrai pour un pays comme la France qui a un outil diplomatique développé. Et nos diplomates, en tant que journalistes chargés de l'international, on les rencontre fréquemment. Nos diplomates ne sont pas seulement des courroies de transmission. Ce sont des gens qui sont effectivement au contact sur le terrain de leurs homologues lorsqu'ils sont en poste, mais aussi de la société civile, d'organisations non gouvernementales. Et Covid ou pas Covid, ils sont effectivement, leur présence dans les institutions ou dans les postes à l'étranger en font des outils de compréhension du monde qui se retrouvent après dans les politiques qui sont et la diplomatie mise en œuvre. Je pense qu'on doit effectivement en ressentir la nécessité dans un moment comme celui-là.
Oui, Jean-Pierre Molny, heureusement qu'on a encore ces réseaux diplomatiques qui existent, qu'on ne les a pas réduits, parce que là, ils sont vraiment particulièrement utiles.
Bah, c'est sûr, effectivement, qu'ils prennent un rôle plus important. Moi, je constate également autre chose. Alors là, c'est au niveau des think tanks qui travaillons sur les questions internationales et qui participons à une forme de pas de diplomatie parallèle, mais on est quand même en lien avec les diplomates des différents pays. Et moi, je me m'aperçois qu'en fait, avec le Covid, autrefois, on essayait toujours de monter des séminaires et c'était toujours un peu long et compliqué et ça coûtait cher entre chercheurs, entre think tankers. Et là, le nombre de webinars a explosé. Je prends le terme anglais, je suis désolé. Le nombre de visioconférences a explosé depuis 4 mois. Ce qui fait que finalement, paradoxalement, nos échanges se sont multipliés. Maintenant, on reste toujours, je dirais, bloqué par le fait qu'on n'est pas, on n'a pas le contact visuel et on peut pas, une fois qu'on a fait un échange, vous voyez, on vous donne la parole, la personne peut répondre, mais ça s'arrête là. alors que parfois, effectivement, il y a des incompréhensions ou des manques de compréhension, où là, ça nécessiterait une discussion plus directe que seule la présence physique peut permettre.
Pierre Vimont, c'est quelque chose que vous regrettez, ou finalement, vous le disiez tout à l'heure, la phase de préparation, elle est peut-être un petit peu plus efficace.
Oui, non, mais on... Beaucoup de mes collègues me disent aujourd'hui qu'ils ont découvert avec ces visioconférences certains avantages qu'ils n'avaient pas tout à fait mesurés dans le passé. Je donne un exemple. L'autre jour, un collègue britannique me disait qu'il avait pu, par visioconférence, faire l'une de ces discussions souvent très longues que l'on appelle les dialogues stratégiques, qui consistent à exposer les positions des uns et des autres, et qu'il avait pu le faire avec des partenaires au fin fond du Pacifique. Et il m'avait dit, ça m'a pris 3 heures donc de visioconférence, si j'avais fait ce que je faisais avant, j'aurais dû prendre l'avion et ça m'aurait pris 48 heures. Et tout d'un coup, on découvre que là, on peut gagner du temps qui peut servir à autre chose. Mais comme cela a été dit avant par les autres intervenants, ça ne supplée pas à tout ce travail de proximité, de contact visuel et je dirais même de réunion informelle où on parle de tout ou rien et on établit une forme de confiance qui reste indispensable pour arriver à un accord final. Ça n'est pas là actuellement dans la diplomatie et c'est ça qu'il faut précieusement conserver et pouvoir relancer le jour venu parce que c'est ça qui est à la base des accords qu'on arrive à trouver à la fin de ces longues négociations.
Oui, Nicolas Falaise, si on revient sur le sujet européen, on sait que les dirigeants des 27 se retrouvent tous les 2-3 mois en sommet. Il y a des relations personnelles qui fluidifient les discussions ou qui se créent forcément.
Oh bah c'est une évidence, hein. Les exemples ne manquent pas. Je pense qu'on a vu, par exemple, ces derniers temps, la relation France-Allemagne incarnée par Angela Merkel et Emmanuel Macron s'exprimer. C'est un exemple parmi d'autres. Donc l'humain, oui, certainement doit débloquer et peut-être bloquer aussi d'autres situations.
Ça doit arriver effectivement. Il y a une question qui est en filigrane de ce que vous disiez, Jean-Pierre Molny, tout à l'heure, sur je peux parler de 3 heures mais avec des collègues du Pacifique sans faire le voyage. Est-ce que le risque c'est pas finalement que on se dise que ces grands messes elles servent moins que ce qu'on imaginait et que c'est peut-être bien moins cher de faire la diplomatie en visioconférence?
Je pense que quand on sortira du Covid, en fait, on va justement rationaliser notre temps. C'est-à-dire qu'on va réussir à bien déterminer ce qu'on peut faire en visioconférence et là où il faut absolument qu'on ait un contact direct. Et peut-être qu'on aura une meilleure répartition entre les deux types de réunions. Moi, je vois, encore une fois, on réfléchit, nous, au niveau des think tanks, et on voit bien qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en visioconférence, et il y en a d'autres, on se dit, non, quand même, on sera quand même limité quant à ce qu'on peut en sortir, et il nous faut absolument un contact direct. Je pense que l'exemple, Pierre Vimont me corrige si je me trompe, mais l'exemple du prochain Conseil européen, où il y a une partie affaires étrangères importante
qui devait avoir lieu aujourd'hui.
La Turquie, la Biélorussie, et puis la question de la relation future, de la négociation sur la relation future avec le Royaume-Uni. Je pense que là, effectivement, ça demande à un moment un contact direct et ça me semble difficile de traiter uniquement en visio.
Pierre Vimont, sur ce Conseil européen qui donc devait commencer aujourd'hui et se poursuivre demain, qui est reporté d'une semaine parce qu'il y a eu un cas de Covid-19 dans l'entourage du président du Conseil européen, là, sur des sujets qui sont des sujets un peu difficiles, un peu durs, là, pour le coup, ça, il faut que les gens se voient.
Oui, Jean-Pierre Meunier a tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est la preuve, c'est qu'après tout, Charles Michel, qui s'est auto-confiné pour éviter de gêner les autres, aurait pu transformer le Conseil européen en une visioconférence. Mais il ne l'a pas fait précisément parce qu'il avait le sentiment, à mon avis tout à fait justifié, qu'il fallait que les chefs d'État et de gouvernement se voient physiquement pour parler de sujets qui ne sont quand même pas des sujets anodins, puisque c'est en particulier la Chine, la Turquie, les suites de la crise en Biélorussie ou de l'affaire Navalny. Donc ça, en effet, ce sont des sujets qu'il faut traiter avec les chefs d'État et de gouvernement ensemble dans une salle pour qu'on puisse échanger et avoir des discussions qui soient utiles. Ce que disait Jean-Pierre Meunier aussi sur les webinars, pour reprendre l'expression consacrée, est très très juste. Mais là aussi, on voit bien que peut-être que dans le travail des think tanks, il faudra aussi distinguer entre des conférences qui peuvent se faire par visioconférence et d'autres qui demandent peut-être un peu plus de préparation et des présences physiques. Je crois que dans tous les métiers qui de près ou de loin touchent aux relations internationales, on va peut-être découvrir ce pointillé qu'on découpera entre d'un côté des réunions qui peuvent utiliser la voie électronique et d'autres qui ont vraiment besoin de la présence humaine.
Nicolas Falaise, là-dessus ?
Oui, je pense aussi qu'il ne faut pas uniquement décrire le moment dans lequel on est comme celui de l'année du Covid. Finalement, cette crise du Covid, elle intervient à un moment où on était déjà entré dans une crise du multilatéralisme. Quelque part, on le voit en ce moment à l'Assemblée Générale de l'ONU, les conséquences du Covid, quelque part, symbolisent quelque chose qui était déjà en marche, à savoir des coups de boutoir, notamment américains, mais pas que contre un système multilatéral. Si dans quelques mois, on peut l'espérer, la crise du Covid est derrière nous, resteront des questions qui se posent au monde, Covid ou pas Covid.
Alors, on va en reparler évidemment, mais Pierre Vimont, je voudrais quand même vous interroger sur cet aspect, excusez-moi, il est assez prosaïque, et voilà... Ça coûte moins cher quand même de faire de la diplomatie comme ça. Le Quai d'Orsay, il est comme toutes les administrations, il est soumis aux impératifs budgétaires. Est-ce que ça va changer des choses de ce point de vue-là ? Est-ce que voilà ?
Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que s'il y a moins de déplacements, on fait des économies, ça c'est sûr, ça vaut pour tout le monde. Ce que disait Jean-Pierre Meunier tout à l'heure à propos des conférences organisées par les think tanks, ça fait des économies, incontestablement. En revanche, un autre aspect qui n'est pas négligeable, et là où ça pose un vrai problème, c'est que certaines de ces conversations ont besoin d'être protégées. Là, on s'aperçoit pour le coup, notamment du côté français, qu'on n'a peut-être pas tous les équipements qui nous permettent d'avoir des conversations téléphoniques en visioconférence ou par d'autres moyens qui soient totalement protégés. Donc là, pour le coup, il faudrait faire des investissements pour avoir les équipements nécessaires et ça coûte cher.
Oui, il y a tout un service là-dessus au Quai d'Orsay, qui est le service des chiffreurs, je crois. Est-ce qu'il doit faire des progrès là-dessus ?
Non, ils sont déjà très bons pour ce qui est de chiffrer les communications écrites. Non, ça c'est d'autres moyens qui sont chers et dont on n'a pas forcément tout le dernier cri de la technologie.
Oui, Jean-Pierre Meunier, ce sont des systèmes de visioconférence, pour le dire très clairement, qui sont américains, quoi.
Surtout, il faut développer des outils, des logiciels en visioconférence qui soient protégés. Et je sais que si vous prenez contact avec l'ANSSI, l'agence qui justement donne des conseils en termes de protection de l'information, des systèmes de communication, ils peuvent vous indiquer effectivement les systèmes qui sont protégés, mais les systèmes qui sont protégés, il faut être honnête, c'est pas ceux qui sont utilisés habituellement le plus souvent, effectivement, dans un cadre international, et y compris au-delà des think tanks, d'ailleurs.
Pour le dire très clairement, Nicolas Falaise, une réunion comme celle qui se passe actuellement aux Nations Unies, ça se passe sur Zoom. J'ai entendu, en préparant cette émission, j'ai lu un article qui nous expliquait que Boris Johnson avait voulu préparer des négociations sur le Brexit, et qu'il avait publié par erreur le lien Zoom sur son compte Twitter. Ça peut arriver, ce genre d'erreur.
Alors, je suis sûr qu'il y a un besoin d'adaptation permanent des États, des diplomaties aux outils, avec les questions sécuritaires qui étaient soulevées à l'instant. Il y a aussi finalement des conséquences symboliques peut-être un peu inattendues. On a pu être frappé hier de voir en vidéo le roi Salman d'Arabie Saoudite prononçait lui-même le discours, alors que la dernière fois qu'un souverain avait porté lui-même la parole de son pays à l'ONU, c'était en 1957, le roi Saoud, son frère, était venu à l'ONU. Donc quelque part, la technologie, ces outils qui ont fait irruption dans nos vies, ça peut aussi quelque part rapprocher, et on a eu un souverain saoudien avec son âge, 84 ans, s'exprimer directement, même si ce n'était pas physiquement, là où ce n'avait pas été le cas depuis des décennies.
Ouais, d'habitude, c'est son fils, hein, Mohamed Ben Salman, le prince héritier.
Plus souvent un ambassadeur.
Sur cette question de multilatéralisme qui est en difficulté, Pierre Vimont, il l'était avant le coronavirus, est-ce qu'il vous paraît davantage menacé par les circonstances ou est-ce qu'au contraire, ça permet de voir son intérêt?
Première chose, première observation, oui, incontestablement, comme cela a été déjà dit auparavant, le multilatéralisme n'allait pas très bien. Avec la crise du virus, tout ça s'est accéléré, ça va encore moins bien. On le voyait, Jean-Pierre Molny le disait tout à l'heure, Nicolas Falaise également, on a eu un Donald Trump particulièrement agressif contre la Chine, et au-delà même de cette Assemblée générale des Nations Unies, depuis plusieurs mois, on voit bien que l'affrontement entre les deux grandes puissances n'a fait que s'envenimer et s'aggraver. Donc le multilatéralisme ne se porte pas mieux qu'avant la crise, et même beaucoup plus mal. En même temps, je crois que oui, comme vous le disiez aussi, cela fait comprendre à chacun toute son importance, notamment sur un point, moi, qui me paraît majeur, qui est que le multilatéralisme se porte de plus en plus mal parce que le droit international est de plus en plus bafoué par un nombre croissant de grandes puissances et de nations à travers le monde. Le droit humanitaire international aujourd'hui est ignoré par les parties en conflit d'une manière encore plus nette que ce n'était le cas dans le passé. On voit la puissance américaine remettre en cause peu à peu tous les accords qu'elle a signés ou se retirer des organisations internationales dont elle faisait partie. Et tout ça est un phénomène qui s'aggrave chaque jour un peu plus. Et au fond, ça amène progressivement à une prise de conscience que le multilatéralisme reste indispensable, que sans doute il faut le réviser, le réformer, mais qu'il est temps de le faire et qu'on ne peut pas laisser cette espèce de chute, de spirale descendante s'aggraver chaque jour un peu plus. Et ça, on voit bien que les pays qui continuent à défendre le multilatéralisme, comme les pays européens ou d'autres encore, le Japon par exemple, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, ont là une responsabilité particulière pour essayer de reprendre ce dossier et de le mener à bien.
Nicolas Falaise, vous vouliez ajouter quelque chose très, très rapidement?
D'un mot, on peut rappeler qu'au début de la crise du Covid, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel à un cessez-le-feu mondial à l'occasion de cette crise inédite, et on a bien vu qu'il était resté sans effet.
Merci Nicolas Falaise, merci Jean-Pierre Molny, merci Pierre Vimont d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnold Assoa à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Jean-Philippe Turie. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme par exemple RFI Pure Radio à la rubrique émission. l'émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit, avec Philippe Le Caplain. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.